Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte.
Quelques semaines passent sans que Pilar reparaisse. Louisa s'est rendue à l'appartement, personne. La librairie de Pilar a été complètement laissée à l'abandon. Et après un certain temps passé à se terrer dans l'appartement à l'attendre, Louisa est plutôt dans l'idée de l'abandonner pour retrouver la rue. Elle n'est pas sur le bail, le propriétaire risque
de bientôt toquer à la porte pour demander le loyer.
Et donc, c'est un petit peu compliqué.
Ouais.
Après, la rue, c'est une vie qu'elle a déjà connue avant Pilar. Mais le problème qu'elle a cette fois-ci, c'est qu'elle est maintenant guidée par cette fin nouvelle que les jours passés depuis son réveil n'ont fait qu'accentuer. Elle est revenue à un état d'insatisfaction qui est assez similaire à celui qu'elle a pu connaître jusque-là. Même si elle est restée assez passive, maintenant, sa faim continuait de grandir jour après jour, et maintenant, elle sent que ça va être compliqué de faire sans.
Je pense que j'ai essayé différentes choses pendant que j'étais dans l'appartement.
Ouais, comme quoi, par exemple ?
Notamment de boire mon propre sang, voir si ça faisait quelque chose.
Ça n'avait pas d'effet particulier.
Ouais, je pense.
Je pense qu'elle a peut-être essayé de se nourrir d'autres choses.
Oui, de manger les restes dans le frigo, de...
Ouais, alors ça, du coup, ça a été une expérience très déplaisante.
Okay.
Tout avait le goût de cendre, et même en se forçant, il fallait pas bien longtemps pour qu'elle ait envie de tout vomir. Et pareil, quand elle vomissait, tout avait l'air décrépit et pourri, comme si tout prenait l'allure de la cendre quand elle s'en nourrissait.
Je pense, vu le personnage et vu la faim qu'elle ressent, elle va finir par craquer et aller une nuit dans un squat quelconque.
Ouais.
Ou même auprès d'un SDF qui dort, juste boire un peu de sang et essayer de se maîtriser au maximum pour ne boire qu'un minimum, histoire de juste satisfaire ce truc qui est en train de pulser en elle et qui est en train de la rendre folle, quoi.
Très bien. Qu'est-ce qu'elle emporte avec elle ? Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'elle récupère dans l'appartement avant de le laisser derrière elle ?
Je pense qu'elle va garder une photo de Pilar et elle, pour sûr. Sa veste en cuir, bien évidemment, pleine de pins, qu'elle porte depuis ses 15 ans. Peut-être un bijou qui appartient à Pilar, que Pilar ne portait pas tout le temps, auquel Pilar tenait vraiment beaucoup, qu'elle tenait de sa grand-mère. Et enfin, de la thune, en fait. L'endroit où elle cachait Pilar et elle, leur thune. Mais elle prend pas tout. Elle prend que les trois quarts. Elle en laisse un quart au cas où Pilar passe. Et laisse à cet endroit-là un mot en plus pour dire que si elle la cherche, si elle repasse par là, qu'elle lui laisse un mot quelque part devant le café associatif. Enfin, un endroit où elles se sont rencontrées. Peut-être un banc, un parc, qu'elle lui laisse un signe. Et qu'elle la retrouvera. Donc en gros, elle prend de l'argent, un bijou de Pilar, une photo et sa veste en cuir. Et c'est tout.
Très bien. Donc, pour essayer de se nourrir, elle va donc essayer de chercher une sorte de squat ou un endroit où elle pourrait trouver des sans-abri qu'elle connaît.
C'est ça. Je pense qu'elle se nourrira. Je pense qu'elle va prendre un peu le premier qui vient, un qu'elle connaît le moins possible pour ne pas se sentir trop coupable. Parce qu'elle les connaît quand même pas mal, puisqu'ils viennent tous à son café pour se réchauffer et passer du temps et discuter, etc. Et elle va essayer de boire un peu de son sang en essayant de se maîtriser, mais sans savoir exactement ce qui va se passer, quoi.
Elle va se diriger vers un camp de sans-abri qu'elle connaît, qui se trouve pas très loin.
Mm-hmm.
C'est un camp qui a été installé sous un pont ferroviaire, de part et d'autre des deux voies de voitures qui passent en dessous des rails. Il y a plusieurs dizaines de tentes qui se répartissent maladroitement ça et là. L'espace est assez saturé du coup sur le trottoir des deux côtés. Cet endroit est clairement insalubre, mais la protection contre les intempéries qu'offre le pont au-dessus en fait le lieu idéal pour s'abriter durablement et garder ses maigres bien au sec. Quand elle arrive à proximité, Louisa reconnaît quelques visages familiers qui se réchauffent à l'entrée du pont, autour d'un tonneau chargé de bois de palette. Il y a Lance, un vétéran du Vietnam qui porte encore sur les épaules sa veste d'uniforme où des pins et des patchs en tout genre ont rejoint sa Purple Heart. Ainsi que Robert, un ancien employé de banque qui s'est ruiné dans les salles de jeux illégales du quartier chinois. C'est pas des mauvais gougres, des mecs tout ce qu'il y a de plus normaux qui ont fini à la rue malgré eux, et que la rue a fini par éroder jusqu'au point de non-retour. Ils n'en sortiront probablement plus, ils le savent, et ça se lit dans leur regard. C'est Lance qui va interpeller Louisa lorsqu'elle s'approche. Ah bah, v'là une revenante!
Je pense que je vais m'asseoir du coup auprès d'eux, un peu tremblante, en essayant de garder quand même toute l'assurance que je peux, et leur dire « Ça va, ça fait des semaines que je suis pas passée dans le coin... Vous allez bien, tous les deux? Du nouveau dans le quartier? »
Oh bah, comme tu vois, on se fait un petit barbecue, hein, donc tout va bien.
Par hasard, Pilar est pas passée dans le coin pour demander de mes nouvelles.
Pilar, c'est ta copine, c'est ça?
Oui, c'est elle avec les cheveux roses.
Là, c'est Robert qui répond et dit « Non, on l'a pas vue. »
Ok.
T'as une sale mine, en tout cas.
Ouais, les semaines qui viennent de passer n'ont pas été évidentes. Mais vous savez ce que c'est.
Là, Louisa ressent quelque chose d'un peu nouveau aussi, qu'elle avait probablement pas remarqué ces derniers temps. La proximité avec le feu de bois juste à côté la met assez mal à l'aise. Elle ressent comme une crainte instinctive.
Ok. Bah, je vais finir par m'éloigner en leur disant « Bon, bah, bonne soirée, les gars. À plus tard. » Et je vais m'éloigner un peu plus... dans un recoin du squat, chercher une petite place, parce que de toute façon, il y a toujours de la place pour quiconque veut squatter, quoi.
Alors, tu vois qu'il y a pas mal de tentes un peu partout, avec probablement des gens qui dorment déjà.
Ouais. Je vais me retrouver à l'extérieur d'une tente, me cacher derrière une tente, peut-être la dernière tente au bout, tu sais.
Le plus loin possible des deux, du coup.
Ouais, c'est ça. Comme si j'allais aller m'allonger ici pour dormir. Ce que ferait n'importe quelle personne normale, enfin normale, n'importe quel SDF dans la rue. Et puis je vais me glisser sous la tente, pas par l'entrée, mais soulever le bord de la tente par le dessous pour voir si y a qu'une seule personne à l'intérieur et si elle est endormie. Enfin, peut-être que je vais l'écouter avant, voir si j'entends des ronflements, du bruit, ou enfin si je suis capable de savoir que la personne dort ou pas à l'intérieur.
On va faire notre premier vrai jet, on va faire un jet de chasse. Le jet de chasse, en fait, il englobe un petit peu toutes les actions que tu fais pour pouvoir t'approcher d'une cible, te nourrir sur elle, la laisser, tout ça sans être au final remarqué.
Ok.
Ça permet de fluidifier un petit peu plutôt que de faire plein de jets à la suite. Là, il s'agit d'un jet de marchand de sable. C'est le style de prédation que Louisa va suivre pour le moment. Et ça demande donc un jet de dextérité plus furtivité, sachant qu'elle a une spécialité d'effraction qui s'ajoute à ça, ce qui lui fait 7 dés à lancer. Tout ça avec une fin de 3. Ça fait 5 succès, c'est excellent, c'est bien plus qu'il n'en faudrait. Hein. Là, moi j'avais fixé une difficulté à 3, comme il s'agit d'un squat, etc., que c'est quelque chose où il n'y a pas forcément de force de l'ordre dans les parages, donc c'est des cibles faciles en quelque sorte. Donc avec 5 succès, Louisa parvient sans problème à pénétrer la tente d'un sans-abri qui est en train de dormir profondément. Elle arrive à s'approcher de lui et à planter ses crocs là où elle le voudrait, que ça soit soit dans son avant-bras, soit à sa nuque, comme tu le souhaites.
Bah du coup, vu que Wendy m'a donné son avant-bras, je vais le faire dans l'avant-bras.
Très bien. Elle a donc dégagé la main et l'avant-bras de sa victime avant d'y planter ses crocs. La personne a à peine bougé au moment où les deux crocs ont pénétré la chair et elle est restée totalement immobile alors que Louisa prenait son sang.
Mm-hmm.
Là, elle se rend compte quand même que le sang sur lequel elle est en train de se nourrir est bien moins plaisant. Il y a une certaine satisfaction qu'elle ressent, mais c'est clairement la différence entre un plat de chef et un plat que tu fais toi-même à la maison. C'est pas mal, mais il n'y a pas l'expertise, il n'y a pas la petite touche supplémentaire. Mm-hmm. Le sang de mortel, visiblement, a une saveur un peu moins intense que celle des autres vampires. Mais c'est suffisant pour assouvir la soif de Louisa. J'imagine qu'elle boit pas jusqu'à vider sa cible de son sang.
Ah non, au contraire, elle essaye vraiment de se faire violence pour essayer de se satisfaire, mais être sûre de laisser sa victime en vie.
Donc elle va redescendre à 1 en soif, okay. Qui lui permet de vraiment repousser au fond de son esprit cette voix insidieuse qui la pousse à se nourrir. Et quand elle relâche l'homme, celui-ci replonge totalement dans son sommeil, comme s'il n'avait rien remarqué. Et elle peut, du coup, sortir de la tente sans attirer l'attention. En tout cas, c'est ce qu'elle croit, car lorsqu'elle commence à se diriger vers la sortie du pont pour laisser derrière elle sa victime, il y a une voix qui l'apostrophe. « Ella, viens voir !»
Je me fige, je réfléchis entre partir en courant et aller voir la personne. Je regarde derrière moi à quoi elle ressemble. Est-ce que je la connais ? Est-ce que je reconnais sa voix ?
Alors, tu te rends compte qu'au moment où tu es passé, il y avait probablement personne à cet endroit-là. En tout cas, tu ne l'as pas remarqué. Mais maintenant, il y a un homme qui se tient adossé au mur. Mm-hmm. C'est un jeune punk avec une crête iroquoise et un blouson de cuir élimé. Elle l'a déjà croisé dans des camps ou des squats du même genre, souvent affilé des coups de main. Quelqu'un qui est plutôt investi aussi dans ce genre de communauté. Mm-hmm. Elle avait jamais trop eu l'occasion d'interagir avec lui, mais en tout cas, son visage lui est familier. Notamment, elle sait que les gens le surnomment Dicky.
Là, je prends toute ma confiance possible et je me tourne vers Dicky et je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Louisa, c'est ça ?»«
Oui, et tu es sûrement Dicky ?»«
Ouais, c'est moi. Écoute, ça va te paraître peut-être un peu bizarre, mais... Là, il fait un signe au niveau de sa tempe. Je sais, t'as changé.
Je sais pas de quoi tu parles, Dicky, et je pense qu'il vaut mieux que tu me laisses tranquille.
Non, mais t'inquiète pas, je comprends, c'est toujours un peu bizarre au début, mais je sais, quoi.
On a un moyen de ressentir un peu si quelqu'un en face de nous est un vampire ou pas, ou est-ce que...
Or, toi, non.
Ouais, ok.
Toi, non, mais visiblement, lui, il a l'air assez certain. Et très vite, il va d'ailleurs confirmer les soupçons que peut avoir Louisa. Ouais, moi, je suis comme toi aussi.
Je vais faire quelques pas en arrière et je vais dire tu me veux quoi ?
Voilà, oh là, doucement. Je ne suis pas là pour te faire du mal ou quoi que ce soit. Justement, ça m'étonne un petit peu que t'en sois une maintenant.
Je n'ai rien demandé à personne, moi. Du coup, réponds-moi, tu me veux quoi ?
Ah, je sais pas, t'as l'air plutôt de quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de main, là, en fait.
Et tu pourrais m'aider comment ?
Bah, je sais pas, t'as l'air un peu perdu, ton sire est pas avec toi.
Mon quoi ?
La personne qui t'a fait ça.
Non, disons que je suis partie assez vite après.
Ouais, bah raison de plus, à mon avis, t'es pas mal paumé et tu dois pas bien savoir ce qui se passe.
Qu'est-ce qui me prouve que si je te suis, si je te fais confiance... Les choses vont bien se passer pour moi. Enfin, tu sais tout comme moi que on peut faire confiance à personne dans la rue, à moins d'avoir vraiment appris à le connaître.
Ouais, je pense que t'as raison. Mais après, c'est à toi de voir, t'as l'air particulièrement paumé. Hein.
Attendons.
Je connais quelques personnes qui pourraient peut-être t'aider.
Ouais. Ils vont attendre quoi de moi en échange ? Et toi, tu veux quoi en échange ? On donne pas sans retour.
Moi, ce que je veux, absolument rien. T'as rien qui pourrait m'intéresser. C'est plutôt moi qui est à ta portée. Je crois que t'as pas l'air très au courant de dans quelle situation tu te retrouves. Et il se pourrait que si tu fais pas très attention, tu risques d'avoir assez vite des problèmes. Je pense que tu te doutes pas à quel point des gens comme nous, il y en a un peu plus qu'on peut croire par ici. Et surtout dans les hautes sphères.
Dans les hautes sphères, tu dis ?
Ouais. Enfin, ça, je pense que Alita te l'expliquera peut-être un peu mieux que moi, si tu veux bien la voir.
Ben, écoute, je crois que j'ai pas bien le choix, là, de toute façon.
Il t'adresse un sourire, et tu vois une forme qui se déplaçait rapidement sur une partie du mur, sur le côté, sur un petit rebord, et qui saute sur son épaule. C'est un espèce de gros rat qui vient, du coup, se percher sur l'épaule de Dicky. Un gros rat gris qui, du coup, se dresse sur ses pattes arrière et qui sniffe un petit peu dans la direction de Louisa. Dicky lève la main pour lui faire quelques caresses et il va lui murmurer « Regarde, Cassidy, on a une nouvelle copine. »
Je crois que j'en suis à un point où il n'y a plus rien qui peut m'étonner, là. Donc, je suis juste en mode « Ok, whatever. » Tu veux m'emmener où ? Vas-y, on y va, quoi.
Allez, je t'emmène voir Anita. Tu verras, elle est très sympa.
Intérêt, ouais.
Du coup, c'est dans un magasin gratuit de South Chicago que Dicky est en train de Louisa. Peut-être une boutique que Louisa connaît. Je sais pas si t'es familière de ce que c'est qu'un magasin gratuit.
Non.
Alors du coup, c'est une boutique où les gens peuvent venir faire des dons, donner des objets, des habits, des trucs comme ça. Et du coup, bah, les gens qui en ont besoin peuvent venir les prendre sans rien payer, en fait.
Et du coup, Louisa est très familière de ce genre d'endroit, elle.
Je pense qu'elle a déjà dû venir dans cette boutique-là sans forcément savoir un petit peu ce qui se tramait derrière.
Ouais.
La boutique en elle-même a la façade un peu décrépite. Elle est encadrée par un bureau de change et un restaurant caribéen. Il y a juste un écriteau qui indique les horaires de dépôt de dons et ceux d'ouverture pour les personnes dans le besoin. Dicky, en tout cas, lui, a l'air de bien connaître les lieux et il n'hésite pas une seconde à passer la porte qui indique pourtant, avec un écriteau, que la boutique est fermée.
Je le suis, mais en faisant attention un peu à mon entourage et je fais un peu gaffe à repérer les sorties possibles derrière pour pouvoir me casser en vitesse si jamais ça y a un problème. Quoi.
Dès qu'il entre, Dicky va interpeller la propriétaire des lieux. Anita, c'est moi, j'ai quelqu'un à te présenter. Et Louisa peut voir que dans cette espèce de friperie solidaire, il y a une jeune femme au look un petit peu hippie qui est en train de trier des sacs de vêtements sur une table. Elle a l'air plutôt jeune. Louisa est à peu près sûre de l'avoir déjà croisée, mais sans avoir forcément eu l'occasion de parler avec elle.
Mmh.
Elle est en train de classer un petit peu des dons, de ranger des vêtements... Elle s'arrête dans son mouvement quand elle vous voit arriver et son regard se dirige dans la direction de Louisa comme pour voir qui est présenté par Dicky.
Du coup, moi, je suis restée proche de la porte et je dévisage un peu Anita en me rappelant quand même que... Enfin, ouais, je pense que je l'ai déjà croisée, effectivement, parce que j'ai récupéré des vêtements dans cette friperie, à mon avis, à des moments dans ma vie. Et inversement, j'ai fait des dons plus tard. On s'est sûrement déjà croisé, quoi, d'une manière ou d'une autre, sans jamais se connaître vraiment, comme tu l'as dit. Et du coup, elle m'inspire plutôt confiance de prime abord, vu ce qu'elle fait pour la communauté. Mais je reste quand même proche de la porte, et je m'adresse à Dicky en disant « Bon, bah maintenant qu'on est là, il se passe quoi ?»« Anita, c'est ça ?» En me tournant vers Anita.
C'est ça. Elle se rapproche pour tendre la main à Louisa, pour la lui serrer.
Je lui serre la main en la dévisageant un peu, en essayant de chercher n'importe quel signe qui me dirait si elle est un vampire ou pas. Genre complètement paranoïaque.
Je pense que Dicky, en voyant Louisa qui est en train de scruter comme si elle allait finir par savoir si quelqu'un est un vampire ou pas, rien qu'en les fusillant du regard, il va avoir un petit sourire et un petit rire et dire... Et ça marche pas comme ça, laisse tomber. C'est un petit tour que je sais faire.
Tu veux dire qu'elle en est une ?
Eh bien oui, je suis moi aussi une descendante. C'est bien pour ça que Dicky t'amène, c'est ça ?
Je lui lâche la main, je recule encore un petit peu vers la porte, et je dis oui, c'est pour ça qu'il m'amène, de ce que je sais. Mais qu'est-ce qui me fait dire que j'ai une bonne raison de rester là ?
Là, c'est Dicky qui va reprendre la parole et il va dire à Anita « Tu vois, Annie, elle est pas avec son sire. Je me demande même si son étreinte est légale, elle pourrait avoir des problèmes avec la tour d'ivoire. »
Je dévisage Dicky parce que j'ai pas compris la moitié des mots qu'il a utilisés, mais je me tais.
Anita, par contre, elle a l'air d'avoir parfaitement compris. Du coup, elle hoche la tête et elle va regarder Louisa avec un air un petit peu compatissant et va dire « Ne t'inquiète pas, si Dicky t'a amené ici, c'est pour une bonne raison. Moi et mes amis, on est un petit peu en marge, mais on se serre les coudes. Dans le nombre, il y a une force et tous ensemble, on parvient à vivre notre vie et à mener nos actions. C'est tout ce qui compte. »
Ça me parle un peu plus que t'es en train de dire là, que le reste.
En fait, ce que veut dire Dicky, c'est que la ville, et on peut étendre ça au pays et puis à d'autres parties dans le monde, sont plus ou moins contrôlées par une organisation qui est composée de gens comme toi et moi, mais qui sont souvent très anciens, très puissants, et qui, du coup, ont installé une sorte de gouvernement dictatorial. Par exemple, ici, à Chicago, on a une sorte de prince.
Un prince? Ah ouais.
T'imagines le melon du gars.
Franchement, si je venais pas de vivre les 3 semaines horribles que je viens de vivre, je croirais juste que tout ça est une grosse blague. Vous voulez me dire que, en plus de cette société capitaliste de merde dans laquelle on vit, il y a une autre société derrière, secrète, de vampires qui boivent le sang des gens et qui, eux aussi, maîtrisent le monde de manière hiérarchisée?
Ouais, et c'est encore pire que ce que tu peux croire, parce que dans les luttes que certains se mènent entre eux, ils sont prêts vraiment aux coups les plus bas. Tu vois la ville de Gary, qui est pas très loin?
Ouais.
C'est vraiment un trou à...
Ouais.
T'as sûrement entendu toutes ces histoires sur comment cette ville était un des fleurons de l'économie américaine au début du siècle, avec toutes les aciéries, etc.
Mmh.
Bah écoute, cette ville, si elle est dans cet état à présent, c'est à cause d'une dispute entre deux anciens. Un certain Modius, qui est encore là-bas, je crois, et le prince de Chicago, qui était en rivalité avec lui. Et par simple mesquinerie... le prince de Chicago a fait en sorte que Gary devienne un trou à rats.
Mais dans quelle merde je me suis mise encore? J'ai pas demandé à faire partie de ce monde, moi.
Je me doute bien, mais t'inquiète pas, je te promets, on va t'aider. Je vais t'expliquer tout ça, je vais te montrer ce dont t'es capable et tu verras qu'avec nous, tout se passera bien.
De toute façon, je crois que j'ai pas d'autre choix. Si je veux survivre, je sais survivre dans la rue, mais pas dans cet état. Déjà, j'ai dû prendre le sang d'un SDF. C'était horrible de faire ça à quelqu'un. Je sais pas comment vivre dans cet état. J'ai vraiment besoin de vous, je crois.
C'est compliqué, bien sûr. Certaines personnes se perdent en route, mais je pense que t'es du bon côté, là, et on fera en sorte que tout se passe bien pour toi.
Par contre... J'ai un vrai gros problème dans toute cette histoire. C'est que depuis que ce truc m'est arrivé, ma femme a disparu. Et j'ai vraiment besoin d'aide pour la retrouver.
Ta femme a disparu? Elle jette un coup d'œil à Dicky. Tu pourrais essayer de te renseigner à ce sujet? Dicky hausse les épaules et dit « Ouais, bien sûr, pas de problème. » Faudrait que tu m'en dises un petit peu plus, Louisa, mais je peux enquêter un petit peu dans le quartier.
Elle s'appelle Pilar Morales. Elle tenait la librairie au coin de la 12e rue.
Numéro au hasard.
La librairie qui n'a pas rouvert depuis tout ça, quoi.
Bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil et puis je vais essayer de me renseigner. Je demanderai peut-être même à Cassidy de fureter un petit peu.
Merci. Bon bah Anita, je sais pas ce que tu veux en échange de tout ça, parce que bon, on n'a rien sans rien dans ce monde. Mais voilà, je suis là.
On va avancer à nouveau un petit peu dans le temps. Bien qu'elle soit entrée dans le monde des ténèbres par une porte dérobée, Louisa... finit par y faire un petit peu sa place. Grâce au soutien d'Anita, elle s'installe dans l'ombre de la Camarilla, au sein du mouvement anarque de Chicago, et commence alors une nouvelle vie pour elle. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ressemblent un petit peu les nuits de Louisa à présent?
Je pense que ses nuits ressemblent un peu à ses journées d'avant. Je pense qu'elle a essayé de se raccrocher à son humanité d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'elle passe une partie de sa nuit d'abord à faire des recherches, encore et toujours aller un peu plus loin, contacter de plus en plus de personnes pour pouvoir retrouver Pilar. Et je pense que le reste de la nuit, elle le passe à rouvrir le café associatif pour pouvoir accueillir les anarques qui en auraient besoin, qui sont un peu dans son état, et les brebis égarées comme elle. Bref, je pense qu'elle essaye de reproduire ce qu'elle vivait avant, mais dans sa nouvelle vie, quoi, et dans son nouvel état.
Ouais, c'est ça, il y a une nouvelle perspective qui s'est ajoutée, mais en gros, les raisons et les moyens qu'elle utilise sont les mêmes.
Elle essaye de garder de la normalité dans sa vie, parce que c'est le seul truc auquel elle arrive à se raccrocher pour l'instant, quoi. Tant qu'elle a pas retrouvé Pilar, elle sait pas trop quoi faire d'autre. Et puis bon, elle passe aussi du temps auprès d'Anita, et je suppose qu'Anita lui demande des petits services de temps en temps et qu'elle les...
Si Anita souhaite parler à Louisa, où est-ce qu'elle pourrait la trouver ?
Je pense que c'est pas Anita qui trouve Louisa, je pense que c'est Louisa qui passe voir Anita vite fait un petit peu chaque soir ou tous les deux, trois soirs pour faire un check, tu vois, sur est-ce que vous avez eu des nouvelles, est-ce que t'as une mission à me donner, enfin... C'est plutôt l'inverse, quoi. Louisa est plutôt à voler à droite à gauche, à se balader tout le temps. Du coup, c'est plutôt Louisa qui vient voir Anita régulièrement.
Très bien. Quand Louisa se présente chez Anita, celle-ci, du coup, va, comme d'habitude, un peu lui demander si tout va bien, lui dire que malheureusement, bah, il n'y a toujours pas de nouvelles particulières au sujet de Pilar. Par contre, cette nuit-là, elle a des choses un peu plus sensibles à lui dire et à lui demander. Mmh. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais la situation est un peu tendue avec la Camarilla en ce moment. Ils ont failli rouvrir les hostilités, alors que nous, les anarques, on y était pour rien. Du coup, on fera bientôt une réunion pour parler un petit peu de tout ça.
Ok, vous pouvez compter sur moi.
À part ça, j'aurais peut-être besoin de ton aide, parce que j'ai cru comprendre que toi, t'as plutôt une bonne connaissance de la rue, des gangs.
Ouais, ouais. Bah, disons que j'ai grandi dans la rue, donc... Donc forcément, on s'y fait beaucoup de connaissances, et j'ai particulièrement des connaissances et des liens avec un gang de South Chicago. Donc si je peux vous aider, je le ferai.
Bon, écoute, ça pourrait peut-être aider, effectivement, parce que... On a eu vent qu'une une jeune descendante ferait des dégâts dans les alentours de Chinatown. Et le problème, c'est que apparemment, ce serait pas une descendante qui aurait été étreinte légalement, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la Camarilla serait après elle.
Ok.
Elle risque de se faire détruire, c'est clair, parce que comme toi, si elle a été étreinte illégalement, la Camarilla cherche pas beaucoup, ça fait partie de leur loi. Aussi, un des autres problèmes, c'est que s'il y a des soucis avec elle et qu'elle brise la mascarade et se fait remarquer un peu trop, ça pourrait encore nous retomber dessus, en fait.
Ouais, donc c'est la merde, quoi.
Et si je te demande ça à toi, c'est parce que cette jeune fille, elle aurait été vue avec un gang de là-bas qui s'appelle les Asian Boys.
Mm-hmm. Je crois que je situe...
Faudrait essayer d'entrer en contact avec elle... Essayer de régler la situation avant que la Camarilla arrive avec ses gros sabots.
Ouais, alors je suis pas sûre que mes contacts avec les Spanish Gangster Disciples aideront beaucoup, parce que ils s'entendent pas trop entre gangs. Mais je peux faire mon possible et aller sur place. Je connais quelqu'un qui vient du quartier chinois, enfin de Chinatown. Un gamin que j'ai aidé, peut-être qu'il pourrait me... Je sais pas. Peut-être que je peux faire quelque chose d'une manière ou d'une autre, et puis aller sur place, enquêter, quoi qu'il arrive. Bref, je peux essayer d'aider, quoi.
Très bien. Fais de ton mieux. De toute façon, je peux pas te demander plus que ça, et c'est déjà un gros service que je te demande. Juste, si la descendante en question est paumée et que tu penses qu'elle pourrait être une bonne recrue, n'hésite pas à nous la ramener.
De toute façon, n'importe qui soit paumé et qui ne veuille pas bouffer l'intégralité des humains du coin serait une bonne recrue, non ?
C'est vrai. Mais il faut s'en assurer, du coup.
Ouais.
Et il faut s'assurer également que la Camarilla ne lui mette pas la main dessus.
Ça marche. Je t'avoue, Anita, que je ne me repère pas encore dans toutes ces histoires de Camarilla et de tout ça, mais je vais faire mon possible pour la retrouver avant qui que ce soit d'autre.
Je ne te demande rien de plus.
Ça marche.